Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir. Julien Cellier, bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'info tous ensemble. Ce soir à la une, le sud-est tremble. Alerte rouge aux pluies dans les Bouches-du-Rhône, alerte orange sur le Var, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse. 2 mois de pluie sont tombés rien que ce matin déjà à Marseille. Attention, de nouveaux orages arrivent par vagues en ce moment. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Julien.
Situation très très évolutive.
Oui, et très instable. Elle peut être piégeuse parce que par moments ça se calme, mais d'autres vagues orageuses arrivent par la Méditerranée. J'en vois en gros à une cinquantaine de kilomètres au sud du Var ou encore des Bouches-du-Rhône, donc ça veut dire que ça n'est pas fini, même si on a en ce moment une petite accalmie, et ça va être comme ça au moins jusqu'en début de soirée.
Donc on va suivre bien entendu en fil rouge ces orages avec vous Louis, avec nos envoyés spéciaux qui sont mobilisés sur le terrain. Ne manquez pas également ce rendez-vous ce soir. Dans un quart d'heure, l'invité de 18h15 sera Denis Jacob, il est policier et mettez-vous une seconde à sa place. Pendant des années, l'un de ses collègues de bureau était un tueur en série. Pendant des années, il a discuté à la machine à café avec le fameux Grêlé, ce serial killer en cavale et impossible alors à identifier. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dans notre journal ce soir, les préparatifs des obsèques de Bernard Tapie à Marseille. L'organiste de la Major jouera-t-il l'hymne de l'OM ? J'espère que oui, dit l'architecte de Marseille, vous l'entendrez. Les gendarmes français et le FBI, main dans la main, arrestation de 2 pirates informatiques en Ukraine. Et puis, après son transfert avorté, Kylian Mbappé s'exprime pour la première fois. Non, tout ne s'est pas joué en août, il avait dit dès le mois de juillet qu'il voulait partir. Les courses dans le Quintet Plus à Enghien, il fallait jouer le 9, le 7, le 13, le 4 et le 10.
À 18h30, les dessous de l'actu, les dessous du rapport choc sur la pédophilie dans l'église, 3000 pédocriminels depuis les années 50 parmi les religieux. À suivre également, laissez-vous tenter. Dernière ce soir, Bruce Lee au musée du Quai Branly. 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes de curiosité quotidienne avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme ?
Ce soir, le chat et le chien comme objet de campagne. On vous expliquera l'importance de l'animal en politique. Au menu également du Jean-Louis Borloo en surmenage et direction la Dordogne pour faire les vendanges.
Et les animaux au cœur de la campagne, ça inspire aussi Éric Brunet et ses polémistes. Ce sera l'un des thèmes au menu dont refait le monde à 19h15 sur RTL.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
École fermée, sortie déconseillée. Un mot d'ordre, restez chez vous les habitants du sud-est, toujours sur le qui-vive face aux précipitations.
Qui arrive par vagues successives depuis ce matin, déjà près de 2 mois de pluie dans les Bouches-du-Rhône et ce n'est pas fini. Hein. Le département est toujours en alerte rouge, vigilance orange dans les Alpes-Maritimes et le Var. Étienne Baudu, vous êtes à Brignoles pour RTL où vous avez rencontré des automobilistes sinistrés.
Oui, avec Déborah et sa fille Elia qui avaient pris ce matin son service dans un restaurant de Brignoles. Mais à 11h, vu les intempéries, son patron décide de fermer l'établissement. Elia appelle donc sa maman pour qu'elle vienne la chercher. Elle habite à une vingtaine de kilomètres. Mais sur le chemin du retour, la maman et la fille sont surprises sur une route gorgée d'eau. Déborah raconte.
Il n'y avait personne derrière moi, ça commençait à monter doucement et j'ai avancé, l'eau montait, en fait ma voiture elle s'est arrêtée, elle a calé, impossible de redémarrer, même les warnings après sont arrêtés, j'ai pas pu fermer les fenêtres, rien du tout. J'avais l'eau déjà presque à mi-cuisse et de là les pompiers ils sont arrivés, ils nous ont fait sortir, ma fille est sortie et l'eau elle montait, ouais, elle rentrait bien dans la voiture quoi. Et là on est bloqué depuis ce matin parce qu'il y a des routes qui sont bloquées.
Et elles ne pourront pas quitter le hall des expositions où elles ont été accueillies tant que les routes ne seront pas dégagées. Ici comme ailleurs dans la région, l'extrême prudence est de mise. Les autorités appellent d'ailleurs tous les habitants à ne pas faire de trajets inutiles, d'autant que les averses orageuses devraient encore se succéder toute la soirée.
Étienne Baudu à Brignoles pour RTL. Notez qu'en Haute-Corse, face au risque de crue, ramassage scolaire anticipé cet après-midi.
Des pluies qui à Marseille ont éparpillé les déchets qui s'amoncelaient dans les rues à cause de la grève des éboueurs. Situation catastrophique, selon une biologiste qui évoque une dispersion sur les plages et en mer dans les prochains jours.
Marseille qui continue de rendre hommage à Bernard Tapie, cahier de condoléances ouvert au Vélodrome avant un hommage jeudi et les obsèques vendredi qui sont célébrées à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure par l'archevêque de la ville, Monseigneur Jean-Marc Aveline. Hugo Hamelin vient de joindre pour RTL.
C'est simplement la famille qui souhaitait qu'il y ait quelque chose à Paris et puis quelque chose à Marseille. Il y a beaucoup de points communs entre la vie de cet homme et l'âme profonde de cette ville. Il y a une très profonde humanité et il y a une espérance. Ce sont ces choses-là qu'on mettra aussi en valeur pendant la célébration.
Alors, sans trahir de secret, est-ce que la personne qui s'occupe de l'orgue à la cathédrale de la Major sait jouer du vent d'haleine? C'est la musique d'entrée des joueurs de l'OM au Vélodrome.
Nous verrons. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé à préparer. J'espère que oui. Je respecte la personne, je vois bien aussi, bon voilà, dans sa vie, il n'y a pas que des choses que l'on peut monter au pinacle. Il y a probablement et il y a sûrement des choses très discutables, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir vécu sa vie jusqu'au bout. Et malgré le combat contre la maladie, il n'a pas négligé de prendre part à d'autres joutes. Et donc ça lui donne une espèce d'authenticité, de sincérité qui le rend proche des gens. Je comprends ainsi, moi, toute l'émotion de cette ville. Alors on ne va pas le canoniser. Mais voilà, on peut dire toute l'affection qu'on a pour lui.
De l'affection donc à dire et à partager, l'archevêque de Marseille au micro RTL, Hugo Hamelin.
Lui était de l'épopée de la victoire européenne en 1993. Il était même le capitaine du Grand OM. Didier Deschamps a rendu hommage tout à l'heure à Bernard Tapie.
Peu importe le domaine où il a pu avoir à exercer, il a toujours voulu gagner, être le meilleur. Ça correspondait à un management, je vais dire comment, spécial. Dans le bien ou dans le mal. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas laisser insensible.
Et au lendemain du décès de Bernard Tapie, on a appris ce matin que la Cour d'appel de Paris allait reporter sa décision dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais qui devait être rendue mercredi.
Elles espèrent comprendre et découvrir la vérité. 17 ans après, la justice britannique a commencé aujourd'hui à se pencher sur le naufrage du Bougalet Braise.
Mais espoir des familles des victimes, 5 marins qui avaient coulé dans leur chalutier au large de l'Angleterre. Premier jour d'audience avec notamment le témoignage d'un expert dont les explications n'ont pas convaincu. Marie Billon est à Londres pour RTL.
C'est un expert qui a été nommé par le juge mais que les représentants anglais des victimes ont décidé d'attaquer très fort dès cet après-midi. Dominique Picot est l'avocat qui était présent à l'audience.
L'expert a été appointé avec une mission complètement idiote puisqu'on ne lui a donné comme grain à moudre que le rapport du BEA qui est le seul qui conclut à l'hypothèse d'une croche molle et pas celle d'un sous-marin. Donc ce pauvre expert considère que ce rapport est l'évangile et chaque fois qu'on lui donne un des autres rapports, c'est une pierre dans sa chaussure qu'il doit écarter.
Thierry Lemaitrier, le fils d'une des victimes, a pu raconter à l'audience ce matin comment, quand il était petit, son père lui avait raconté que les sous-marins étaient un danger que les pêcheurs gardaient toujours en tête.
Aujourd'hui ça va, je pensais craquer en lisant le portrait de mon père et non, ça s'est bien passé. Mais je suis toujours là parce que je dis toujours c'est ça ou c'est pire, de rien faire c'est pire, donc voilà.
Thierry Lemaitrier reste optimiste, il estime que la justice britannique prend les familles des victimes au sérieux, la preuve, dit-il, c'est qu'elle leur accorde 3 semaines d'audience.
Marie Billon à Londres pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec des gendarmes français en Ukraine pour contrer des pirates informatiques. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et donc la suite de votre journal à 18h09 sur RTL, c'est le fruit d'une nouvelle coopération internationale. 2 pirates informatiques viennent d'être arrêtés en Ukraine après des attaques qui ont visé la France notamment.
Opération menée par la gendarmerie nationale avec le FBI et la police ukrainienne, Guillaume Chiez.
Oui, depuis un an et demi, ce réseau ukrainien attaquait de grandes entreprises françaises et américaines. Toujours le même principe, le virus bloque le système informatique, les pirates se saisissent des données, menacent de tout publier sur Internet si une rançon n'est pas payée. Rançon qui pouvait aller de 5 à 70 millions d'euros selon la taille des entreprises. En France, ce sont surtout des gros acteurs du secteur de l'énergie, des transports et des services qui ont été visés. Les gendarmes français, avec l'aide du FBI et d'Europol, sont parvenus à identifier les hackers, remonter tout leur réseau. La semaine dernière, ils ont demandé l'aide des policiers ukrainiens pour les interpeller. La police locale a également mis la main sur plus d'1 million d'euros en crypto-monnaie, 320 000 euros en liquide et saisi 2 voitures de luxe estimées à plus de 200 000 euros.
Quand même.
Les précisions de Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, si vous ne vous connectez pas, si vous ne parvenez pas à vous connecter à Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger ce soir, eh bien c'est normal. Ces sites sont en panne selon un site spécialisé. Enfin, après une fin d'été agitée, Kylian Mbappé parle pour la première fois de son départ avorté pour le Real Madrid.
Alors jusque-là, seul le PSG s'était exprimé. Aujourd'hui, donc, chez nos confrères de RMC, l'attaquant livre sa version sur ce vrai-faux transfert, Christian Olivier.
Si on écoute le joueur, pas de doute, il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain un an avant le terme de son contrat et il a prévenu ses dirigeants à la fin du mois de juillet. Le Parisien n'oublie pas de préciser qu'en voulant partir plutôt que prévu, je cite, pas comme un voleur, cela aurait permis au club d'obtenir une indemnité de transfert pour acquérir un joueur de qualité, selon sa propre expression. Il faut en effet rappeler qu'au cours du feuilleton de l'été, le Real Madrid annonçait être prêt, soi-disant, à racheter la dernière année de contrat pour une somme d'environ 180 millions d'euros allant directement dans les caisses du club de la capitale. Kylian Mbappé enfonce le clou, je l'ai annoncé assez tôt pour que Paris puisse se retourner. On connaît la suite, les dirigeants parisiens ont toujours fait la sourde oreille, avec, sauf retournement de situation désormais, le risque de voir partir le joueur gratuitement à la fin de la saison. Contacté par nos soins il y a quelques minutes, le PSG n'a visiblement aucune intention de participer à cette partie de ping-pong.
Ambiance, ambiance. Explication de Christian Olivier, le chef du service des sports de RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle, miracle même selon les mots de l'acteur canadien William Shatner qui à 90 ans va devenir la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace. Celui qui a incarné le mythique capitaine Kirk dans la série Star Trek sera de la prochaine mission dans l'espace de Blue Origin et ce sera la semaine prochaine.
Incroyable, merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps, Louis Baudin, on l'a dit, situation extrêmement évolutive, on l'a surveille sur RTL, nos envoyés spéciaux sur le terrain sont mobilisés parce qu'il y a plusieurs départements en alerte, notamment alerte rouge dans les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse sont également en vigilance. Il y a beaucoup plus ce matin et de nouveaux orages arrivent par vague, c'est
exactement.
Ça
là, il y a une ligne qui remonte sur les Alpes-Maritimes, ce qui m'inquiète parce que les Alpes-Maritimes avaient été relativement épargnées. Il y avait eu des pluies, mais pas très fortes. Mais là, on attend de violents orages. Donc, on le sait, hein, ce département est particulièrement fragilisé depuis l'an dernier. Donc, à surveiller ces pluies qui remontent donc de Méditerranée. Même chose sur le Var, on a une petite accalmie, mais je vois une ligne là qui fait à peu près 50 km d'épaisseur qui remonte actuellement sur le sud du Var. Donc, vous voyez que ça n'est pas fini. Ça devrait s'arrêter quand même petit à petit avec la nuit. Et d'ailleurs, demain, dans ces régions du sud-est, ça devrait franchement s'améliorer, alors que dans les autres régions, ce sera l'inverse. Une nouvelle perturbation va traverser toute la France d'ouest en est, avec des nuages, de la pluie, de nouveau du vent fort dans la moitié nord, mais elle épargnera le littoral méditerranéen, donc où ça ira mieux. Puis les températures, comme aujourd'hui, 16 à 19 degrés dans la moitié nord et 19 à 21 dans le sud.
Merci Louis, et bien entendu, on continue de suivre cette situation donc qui peut évoluer à tout moment avec vous sur RTL.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
Julien Cellier, RTL Soir.
Et maintenant, sur RTL, on va essayer de vous expliquer les Pandora Papers. Vous avez peut-être vu passer ce nom un peu barbare sur Internet ou dans la presse aujourd'hui. 600 journalistes du monde entier ont travaillé ensemble, ont épluché 12 millions de documents et accusent désormais des dizaines de chefs de gouvernement d'optimisation fiscale XXL. Alors, pour mieux comprendre, nous allons poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui est révélé exactement dans cette immense enquête?
Eh bien, ce sont des milliers de transactions réalisées dans des paradis fiscaux. Le but est d'échapper à l'impôt, aux taxes et de dissimuler les avoirs pour faire ce qu'on appelle tout simplement de l'évasion fiscale. Il y a des milliers de milliards de dollars qui sont actuellement dans ces comptes offshore.
Qui est concerné? Est-ce qu'il y a des Français?
600 Français, exactement, dont Dominique Strauss-Kahn, ex-directeur du Fonds monétaire international. Il a fait transiter plusieurs millions de dollars d'honoraires, de conseils à des entreprises par une société marocaine, exempte d'impôts. Mais il y a aussi énormément de dirigeants politiques à l'étranger, comme par exemple l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, des proches du président russe Vladimir Poutine ou encore le roi Abdallah de Jordanie. Il y a également des célébrités comme la chanteuse Shakira ou encore la mannequin Claudia Schiffer. Beaucoup ont réagi d'ailleurs à ces révélations depuis ce matin. Le Kremlin par exemple rejette, je cite, des accusations infondées et le roi Abdallah de Jordanie parle d'allégations déformées. Et
est-ce que c'est légal cette optimisation fiscale?
Alors toutes les opérations ne sont pas légales, mais certaines d'entre elles, oui. Par exemple, ouvrir une société au Luxembourg au sein de l'Union européenne est parfaitement légal. La fiscalité luxembourgeoise est plus avantageuse qu'en France. Mais c'est sur le plan moral que le collectif de journalistes se place. Il pointe un manque de cohérence entre les discours des politiques impliqués qui dénoncent la corruption et plaident pour la transparence, malgré leurs montages fiscaux douteux. Néanmoins, il y a assez peu de chances qu'il y ait des poursuites judiciaires dans l'immédiat, puisque c'est légal. Mais le fisc pourrait bien s'intéresser de près aux comptes des 600 citoyens français qui sont désormais concernés.
Les explications d'Arnaud Touche pour RTL et ce feuilleton des Pandora Papers, il ne fait sans doute que commencer parce que les révélations vont être échelonnées dans les prochains jours. Merci beaucoup à Arnaud. Une petite pause sur RTL avant d'accueillir notre invité. Denis Jacob est policier, syndicaliste et pendant des années, l'un de ses collègues de bureau était un tueur en série, le fameux Grêlé, ce serial killer introuvable, impossible à identifier. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, vous écoutez RTL, 18h19. Ce soir, notre invité est un homme qui a côtoyé quotidiennement le Grêlé. Le Grêlé, c'est ce tueur en série, sans doute 4 meurtres, 6 viols dans les années 80-90. 35 ans de cavale, pendant 35 ans, impossible de mettre un nom sur ce serial killer, mystère, jusqu'à la semaine dernière et le suicide d'un ancien policier et gendarme. Avant de se donner la mort, cet ex des forces de l'ordre a laissé une lettre, il s'appelait François Vérov et il a avoué être le Grêlé. Bonsoir Denis Jacob.
Bonsoir Julien Cellier.
Vous êtes secrétaire général de la CFDT Police et vous avez côtoyé le Grêlé quasiment tous les jours entre 1995 et 1999. À cette époque, vous êtes tous les deux syndicalistes chez Alliance et vous le rencontrez chaque semaine, chaque jour, presque François Vérov, c'est ça ?
Oui, je ne vais pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, effectivement. François Vérov était l'un de mes délégués sur le département des Hauts-de-Seine quand j'étais en responsabilité sur ce département. Moi, j'avais mon bureau au sein de la direction territoriale des Hauts-de-Seine et lui était délégué à l'unité motocycliste, donc les motards de la police nationale des Hauts-de-Seine, et nous étions dans le même bâtiment. Donc, on pouvait se croiser quotidiennement au café, dans le couloir, où lui venait nous voir au bureau pour nous exposer les problématiques qu'il pouvait rencontrer au sein de son unité. Donc oui, on avait une certaine proximité. Après, voilà, c'était pas un ami, je ne le connaissais pas dans l'intimité de sa vie privée, mais en tous les cas, on avait une proximité quasi quotidienne.
Et vous avez quel souvenir de ce collègue ? À l'époque, vous n'aviez aucun soupçon, rien ne pouvait éveiller le moindre soupçon ?
Non, parce que François Vérov était quelqu'un qui, d'une manière générale, était quand même assez effacé. Alors, il y a eu une période assez compliquée de sa vie. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, où il était en situation de dépression. Il nous avait dit lui-même qu'il prenait des antidépresseurs pour se soigner. C'était aux alentours de 1997, ce qui maintenant m'interpelle par rapport à la concordance de la date qu'il a mis dans sa lettre avant de se suicider pour dire que c'était l'année à laquelle il avait arrêté de commettre toutes les atrocités qu'il a pu commettre.
Oui, parce que dans sa lettre, il explique avoir commis son dernier crime en 1997. Et à ce moment-là, vous nous dites, le Grêlé, il était dépressif, il était en arrêt maladie, ça n'allait pas dans sa vie, c'est ça ?
Il s'est jamais penché sur les raisons pour lesquelles il était pas bien, mais en tous les cas, c'était un homme tourmenté, qui psychologiquement n'allait pas bien. Ça se voyait même physiquement, quand par moments, il était en crise, parce qu'il était tellement livide, tremblant par moments quand il venait nous voir, que bon, on se posait quand même des questions, mais... Je dirais malheureusement, vous savez, dans la police nationale, il y a eu pas mal de médiatisation autour des risques psychosociaux, des suicides, donc François aurait pu en faire partie, et c'est comme cela que nous l'avons pris, et nous avons essayé à l'époque de l'aider comme on pouvait. Donc c'est vrai qu'il a été de nombreux mois en arrêt maladie, quand il est revenu... Il a fait une demande de mutation au sein du commissariat d'Asnières, donc il a quitté momentanément les motocyclistes pour aller en sécurité publique et nous l'avons aidé pour aller à ce commissariat. Mais de là à penser un seul instant que je serrais la main de quelqu'un quasiment tous les matins qui potentiellement venait de tuer quelqu'un, aujourd'hui ça me fait froid dans le dos.
Enfin, oui, c'est ça, parce que quand on dit qu'il a commis son dernier crime en 1997, c'est ce qu'il écrit dans la lettre avant de se suicider, il a peut-être... tué, violé, alors qu'effectivement vous preniez le café avec lui tous les jours, que vous aviez le portrait robot du Grêlé sans doute dans vos bâtiments.
Alors oui, Mais vous savez, on était dans un bâtiment où il y avait 800 policiers. Donc François Vérov a croisé de nombreux policiers, de nombreuses autorités, et jamais personne n'a cru un instant que ça pouvait être un tueur en série. Mais sur les portraits robots, là aussi, j'ai déjà dit. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde les portraits robots, maintenant qu'on me dit que c'est lui, on peut y voir certains traits, mais c'est des traits grossiers de ressemblance. Mais à l'époque, on me les aurait présentés, mais en aucun moment j'aurais pu faire le moindre rapprochement avec sa réalité physique. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de point direct de ressemblance qui pouvait faire un rapprochement direct avec François Vérov. Mais vous savez, à l'époque, les moyens technologiques n'étaient pas non plus les moyens d'aujourd'hui. Forcément, on serait en 2021 avec les outils numériques, avec l'ADN qui s'est hyper développé ces dernières années, certainement qu'on aurait pu l'identifier bien avant, mais là en l'occurrence c'était pas le cas.
En 1999, François Vérov change de vie, il part dans le sud. Vous avez le souvenir de ce départ? Est-ce qu'il a coupé les ponts? Est-ce qu'il a gardé contact?
Non, François n'a pas coupé les ponts, parce que quand lui il est parti dans le sud, moi j'ai été appelé à des responsabilités nationales, toujours pour mon ancienne organisation syndicale, et il a fait partie de mon staff des modérateurs, puisqu'à l'époque on avait lancé un forum internet pour répondre aux interrogations des policiers, et il faisait partie de ce staff, et comme son attitude habituelle, il répondait posément. Il y avait, alors c'est vrai que quand il a été en dépression, il était par moments énervé, mais il n'a jamais fait preuve d'agressivité, de violence. Et quand il a été modérateur, alors certes on avait un contact virtuel, mais en tous les cas il répondait correctement aux questions qui étaient posées, toujours de manière posée, et puis on se voyait une fois par an, puisque on avait institué l'habitude pour la nouvelle année de réunir tout le staff de modérateurs à Paris pour un repas de convivialité, et chaque année il venait et il n'y avait jamais eu de problème ou jamais le moindre élément nouveau qui aurait pu dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pourrais même dire d'ailleurs que quand il est parti en province, une fois qu'il a été affecté dans le sud, quand les fois où j'ai pu le revoir, je trouvais que c'était un homme beaucoup plus moins tourmenté, plus serein, plus apaisé, en tous les cas beaucoup moins tourmenté que je n'avais pu le connaître entre 95 et 99.
Juste en un mot, quand vous avez appris que François Vérov était le grêlé, ce tueur en série qui donc a probablement tué 4 personnes et a violé 6 personnes dans les années 80-90. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelle a été votre première réaction?
Écoutez, je l'ai appris sur votre antenne vendredi matin, que c'était François Vérov, et c'était au réveil, puisque c'était mon radio réveil, et franchement, j'ai fait un bond dans mon lit et j'ai dit, mais c'est pas possible, pas lui. Ça a été un véritable choc, parce que maintenant, je me dis aussi, alors je ne me sens pas fautif, bien évidemment, mais est-ce que nous tous, qui l'avons côtoyé dans une période difficile de sa vie, qui nous semblait être des problèmes psychologiques, est-ce qu'on a pu passer à côté d'un élément, de quelque chose qui aurait pu, comme on dit vulgairement, nous mettre la puce à l'oreille? Moi, je ressasse ça depuis vendredi. C'est vrai que il y a des quand même concordances de l'état de santé dans lequel il était en 96-97 et aujourd'hui sa lettre, qui fait un rapprochement et puis de savoir qu'on a côtoyé en direct un tueur en série. Je veux dire, on peut tous être concernés, malheureusement, d'avoir quelqu'un dans son entourage qui peut être un tueur en série, un pédophile ou autre, et qu'aucun signe ne permet de détecter. Et c'est ça qui est affolant et qui est choquant.
Merci Denis Jacob, policier, secrétaire général de la CFDT Police. Merci d'avoir été notre invité, vous qui avez côtoyé le grêlé pendant 4 années. Vous parlez de criminel qu'il est très difficile de repérer. On va en discuter justement dans les dessous de l'actu, dans un instant sur RTL. Les dessous du rapport aujourd'hui qui va ébranler demain l'Église. Le rapport Sauvé, il sera dévoilé demain matin sur la pédophilie chez les ecclésiastiques. Les conclusions seront effroyables, ce sont les mots des évêques. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. Il est 18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, on va vous rappeler les grands titres de l'actualité. Alors, actualité très évolutive parce qu'on suit de très près la situation des intempéries dans le sud-est, où on attend des orages que l'on craint dévastateurs dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Louis Baudin, il y a toutefois une nouvelle encourageante. Il n'y a plus d'alerte rouge là à l'instant, ça vient de tomber.
Sur les Bouches-du-Rhône, effectivement. Pourquoi? Parce que là, quand on suit la prochaine salve, si je puis dire, orageuse, devrait circuler plutôt sur le Var, sur les Alpes-Maritimes, où là, ça ça peut être inquiétant, parce qu'on sait que le département est particulièrement fragile. Ça devrait être la dernière, donc voilà pourquoi il y a encore la vigilance orange, mais plus de vigilance rouge. Mais attention, hein, encore dans la prochaine heure, prudence, notamment sur le Var. Je vois c'est en train d'arriver sur Toulon, par exemple. Puis ensuite, ça remonterait également vers Brignoles. Puis ça arrive aussi sur Antibes et plus très loin de Menton, et qui était épargné jusque-là.
On suit ça avec vous en temps réel. Le reste de l'actualité, Marion Calais.
C'est une information qu'RTL vous révèle ce soir. Une nouvelle plainte vient d'être déposée à l'encontre du gynécologue de l'hôpital Tenon à Paris, Émile Daraï. L'enquête ouverte pour viol en réunion a été confiée à la police judiciaire de Paris. Accès impossible ce soir aux réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais aussi aux messageries WhatsApp et Messenger. Des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde impactés selon des sites spécialisés. Et puis le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour une troisième dose de vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans et ce au moins 18 mois après la deuxième dose.
Merci Marion, bonne soirée.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, RTL se plonge dans les coulisses du rapport choc. Demain matin, Jean-Marc Sauvé présentera les conclusions d'un travail de 3 ans sur la pédophilie dans l'Église. Les évêques parlent d'ores et déjà, anticipent, parlent de chiffres effroyables. Marie Garrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi ces travaux pour RTL ces dernières années. La priorité, c'était le témoignage des victimes.
Oui, Jean-Marc Sauvé s'est entouré de 12 hommes et 10 femmes, anthropologues, sociologues, psy, médecins, magistrats. Leur mission était de recenser les abus sexuels et d'en comprendre les mécanismes.
Pour faire la lumière, il faut bien sûr d'abord que les victimes puissent dire ce qui leur est arrivé. Faire place à la parole des victimes, au traumatisme qu'elles ont ressenti. C'est cela dont nous voulons en priorité rendre compte.
Il y a eu 6500 réponses à l'appel à témoignages, 250 victimes longuement auditionnées, dont Agnès. Elle a raconté ce qui lui est arrivé dans un pensionnat quand elle avait 8 ans.
Quand la lumière était fermée, il y avait une religieuse âgée qui montait et qui s'asseyait à côté de moi et elle mettait la main sous le drap et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'en avais parlé à personne. J'ai entendu à la télévision qu'on allait pouvoir témoigner. On m'a écouté, on m'a cru. Ça a pris 50 ans, oui.
Mais de très longues années de silence, comme pour elle, la majorité des témoignages remontent aux années 50 et 60.
Il y a eu également une plongée capitale dans les archives.
Oui, d'abord dans les archives nationales de l'Église à Issy-les-Moulineaux.
Accès interdit au public.
Exactement. Voilà un magasin type d'archives.
Philippe Portier, sociologue et historien, a exploré les archives du Secours Sacerdotal, une association qui intervenait sur les cas douloureux, comme on disait à l'époque.
Dans chacune des boîtes, il y a une dizaine de dossiers correspondant à 10 diocèses. Et dans ces dossiers, il y a en effet des feuillets qui concernent des cas douloureux, des prêtres alcooliques par exemple, des prêtres qui ont quitté la prêtrise à un moment donné, et puis de temps à autre, un dossier qui concerne un prêtre pédophile.
Un travail de fourmi qui s'est prolongé dans les archives de 35 diocèses et de 17 congrégations, au moins 3000 prêtres ou religieux abuseurs sexuels ont été identifiés.
Mais on ne connaît pas encore le nombre de victimes, le chiffre sera dévoilé demain.
Ah oui, en même temps qu'une enquête scientifique importante et inédite menée par l'INSERM et l'IFOP dans la population générale, ça permettra de mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé dans l'Église au regard des violences sexuelles sur mineurs commises sur la même période dans le reste de la société.
Merci Marie Garrier. Le rapport de Jean-Marc Sauvé sera donc dévoilé demain matin. Merci beaucoup.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
À 18h35, vous écoutez RTL.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, on a bien besoin de changer les idées maintenant sur RTL. Et comme chaque soir, eh bien c'est le moment que vous attendez. LVT dernière, la joyeuse bande de Laissez-vous tenter qui vous livre ses bons conseils. Alors ce soir, une expo. Et en kimono avec ceinture, s'il vous plaît. Bonsoir, Monique Younès. Parce que vous nous emmenez au musée du Quai Branly Jacques Chirac, où les arts martiaux s'exposent en majesté.
Mais oui, une exposition immersive qui nous apprend quantité de choses passionnantes sur les arts martiaux asiatiques, se pratiquer en Inde, en Chine, au Japon.
Donc, Kung Fu, Aikido, Taekwondo, entre autres.
Pour ne parler que des plus connus ici en Occident, on remonte à leurs origines réelles ou légendaires à travers une grande diversité d'œuvres qui proposent aussi bien des statues antiques que des figurines de robots, des peintures impériales que des jeux vidéo, des armes de combat, des masques de théâtre, des mangas, mais aussi des tenues militaires et des films, notamment avec l'icône mondiale des arts martiaux chinois.
Bruce Lee, c'est ça ?
Mais oui, ouais. Bruce Lee incarne à lui seul toute la tradition des arts martiaux chinois. Le commissaire Julien Rousseau a un faible pour lui.
Il a créé d'ailleurs sa propre discipline, hein, le Jeet Kune Do.
Do you understand ?
Et en même temps, il réactualise aussi cette idée du kung-fu comme arme du peuple. Parce qu'il utilise une arme à deux sections, un bâton en bois ou en métal réuni par une chaîne. Qui permet de développer la maniabilité et la vitesse, permet aussi des blocages pour la défense. Et cette arme donc est vraiment arme des paysans, qui était utilisée dans les révoltes populaires et qui traduit cette idée de kung-fu vraiment comme arme des opprimés contre leurs oppresseurs.
Alors j'entends chez vous une passion naissante pour Bruce Lee, cher Monique. Qu'avez-vous appris d'autre au musée ?
Vous savez, il n'y a pas que Bruce Lee, il y a Jet Li, Jackie Chan, ouais. Ont eux aussi contribué à propager la mythologie des arts martiaux. C'est à travers le cinéma et la fiction que l'exposition Ultime Combat nous fait remonter aux origines des arts martiaux. Et d'un coup, tout s'éclaire. Le mystère des statues antiques, gardiennes des portes de temples bouddhiques, les dieux combattants hindous, les figurines de théâtre d'ombre et même les cartes à jouer illustrées par des représentations des avatars de Vishnu. On comprend tout, notamment pourquoi et comment les pratiques martiales se sont détachées peu à peu de leur fonction militaire première pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Une forme de méditation qui me permettra peut-être, si je la pratique convenablement, de faire mes chroniques en lévitation.
Ah mais ce serait une très chouette idée, ça.
Voilà,
on attirerait énormément de monde sur l'appli RTL, rtl.fr pour vous regarder pendant vos chroniques, Monique. C'est pour les petits et les grands, parce que
mais
ça plaira aux petits qui sont nombreux sur les tatamis,
mais
ça.
Bien sûr.
Super. Eh bien, Ultime Combat au musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris jusqu'au 16 janvier prochain. Merci pour la balade, Monique.
À bientôt.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Allez, on va marquer une courte pause dans RTL Soir et dans un instant, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Dans un instant, on va notamment se demander pourquoi Emmanuel Macron est allé caresser des chiens et des chats dans un refuge SPA aujourd'hui. Médor Mistigri s'invite dans la campagne présidentielle. A tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.